Troisième jour, nuit. Ouatso, bouleversé, se confesse à Guillaume et médite sur la fonction de la femme dans le plan de la création pour découvrir ensuite le cadavre d'un homme.
Je revins à moi au moment où quelqu'un m'humectait le visage. C'était frère Guillaume qui portait une lampe et m'avait mis quelque chose sous la tête. « Qu'est-il arrivé, Ouatso ? » me demanda-t-il. « Que tu rôdes la nuit à voler des abats dans les cuisines ?» Bref, Guillaume s'était réveillé, m'avait cherché je ne sais plus pour quelle raison, et ne me trouvant pas, il avait soupçonné que j'étais allé faire quelques bravades dans la bibliothèque. Comme il s'approchait de l'édifice du côté des cuisines, il avait vu une ombre qui sortait par la porte donnant sur le potager, c'était la fille qui s'éloignait sans doute parce qu'elle avait entendu quelqu'un s'approcher, il avait cherché à comprendre de qui il s'agissait et tenté de la suivre. Mais elle, autrement dit ce qui était une ombre pour lui, s'était enfuie vers le mur d'enceinte puis avait disparu. Alors Guillaume, après une exploration des environs, était entré dans les cuisines et là, il m'avait trouvé évanoui. Quand je lui indiquais encore terrorisé le paquet avec le cœur, bafouillant quelque chose sur un nouveau crime, il se mit à rire. « Ouatso, mais quel homme pourrait avoir un cœur aussi gros ? C'est un cœur de vache ou de bœuf, ils ont tout juste tué un animal aujourd'hui. Plutôt, comment se trouve-t-il dans tes mains ?» À ce point-là, oppressé par les remords, outre qu'abasourdi par l'effroi, je fondis en larmes et demandai qu'il m'administrât le sacrement de la confession, ce qu'il fit, et je lui racontai tout sans rien lui cacher. Frère Guillaume m'écouta avec un grand sérieux, mais avec une ombre d'indulgence aussi. Lorsque j'eus fini, il prit un air grave et me dit « Ouatso, tu as péché sans nul doute, et contre le commandement qui t'impose de ne point forniquer et contre tes devoirs de novice. À ta décharge, le fait est que tu t'es trouvé dans une de ces situations où ce serait damné même un père dans le désert. Et sur la femme comme source de tentation, les Écritures ont déjà suffisamment parlé. De la femme, l'Ecclésiaste dit que sa conversation est comme un feu ardent, et les Proverbes disent qu'elle s'empare de l'âme précieuse de l'homme, et que les plus forts ont été ruinés par elle. Et l'Ecclésiaste dit encore « Or, je trouve plus amère que la mort la femme, car elle est un piège et son cœur un filet et ses bras des chaînes. » Et d'autres ont dit qu'elle est le vaisseau du démon. Cela étant bien clair, cher Ouatso, je n'arrive pas à me convaincre que Dieu ait voulu introduire dans la création un être aussi immonde sans le douer de quelques vertus. Et je ne puis pas ne pas réfléchir sur le fait qu'il lui a accordé de nombreux privilèges et motifs d'estime, dont trois au moins très grands. En effet, il a créé l'homme dans ce monde vil et à partir de la boue, et la femme en est un second temps au paradis et à partir de la noble matière humaine. Et il ne l'a pas tirée des pieds ou des intestins du corps d'Adam, mais de sa côte. En second lieu, le Seigneur qui peut tout aurait pu s'incarner directement dans un homme, en quelque sorte miraculeux. Et il choisit au contraire d'habiter dans le ventre d'une femme, signe qu'elle n'était pas aussi immonde que cela. Et lorsqu'il apparut après la résurrection, il apparut à une femme. Et enfin, dans la gloire céleste, aucun homme ne sera roi de cette suprême patrie. Au contraire, en sera reine une femme qui n'a jamais péché. Si donc le Seigneur a eu tant d'attention pour Ève elle-même et pour ses filles, est-il si anormal que nous aussi nous nous sentions attirés par les grâces et par la noblesse de ce sexe? Ce que je veux te dire, Ouatso, c'est bien sûr que tu ne dois plus le faire, mais qu'il n'est pas si monstrueux que tu aies été tenté de le faire. Et d'ailleurs, qu'un moine, au moins une fois dans sa vie, ait eu une expérience de la passion charnelle, de façon à pouvoir être un jour indulgent et compréhensif avec les pécheurs auxquels il donnera conseil et réconfort, eh bien, cher Ouatso, c'est une chose à ne pas souhaiter avant qu'elle n'arrive, mais non plus à ne pas trop vitupérer après qu'elle est arrivée. Et donc, que Dieu soit avec toi, et n'en parlons plus. Mais plutôt, pour ne pas nous attarder à trop méditer sur quelque chose qu'il voudrait mieux oublier, si tu y parviens, et il me sembla qu'ici sa voix s'affaiblit comme sous le coup d'une émotion secrète. Demandons-nous plutôt le sens de ce qui s'est passé cette nuit. Qui était cette fille? Et avec qui avait-elle rendez-vous? Cela, je l'ignore vraiment, et je n'ai pas vu l'homme qui se trouvait avec elle, dis-je. Bon, mais nous pouvons déduire de qui il s'agissait d'après des indices absolument certains. C'était avant tout un homme laid et vieux, avec qui une jeune fille ne va pas volontiers. Surtout si elle est aussi belle que tu la dépeins, même si j'ai lieu de croire, mon cher petit loup, que tu étais enclin à trouver tout morceau exquis. Pourquoi laid et vieux ? Parce que la jeune fille ne se rendait pas auprès de lui par amour, mais pour un paquet de rognons. C'était certainement une fille du village qui, sans doute, pas à sa première expérience, se donne par faim à quelques moines luxurieux et en obtient comme récompense quelque chose à se mettre sous la dent pour elle et sa famille. « Une prostituée ? » dis-je horrifié. « Une paysanne pauvre, Atso. Sans doute avec des petits frères à nourrir. Et qui, si elle le pouvait, se donnerait par amour et non par lucre, comme elle a fait ce soir. Tu me dis en effet qu'elle t'a trouvé jeune et beau, et elle t'a donné gratis et par amour pour toi ce qu'à d'autres elle lui donnait en revanche pour un cœur de bœuf et quelques morceaux de mots. Elle s'est sentie si vertueuse pour le don gratuit qu'elle a fait de soi et soulagée qu'elle s'est enfuie sans rien prendre en échange. Voilà pourquoi je pense que l'autre auquel elle t'a comparé n'était ni jeune ni beau. J'avoue que pour fort vif que fût encore mon repentir, cette explication me remplit de très doux orgueil. Mais je me tus et laissai continuer mon maître. Ce vieux dégoûtant devait avoir la possibilité de descendre au village et d'être en contact avec les paysans, pour des raisons inhérentes à son office. Il devait connaître la façon de faire entrer et sortir des gens de l'enceinte et savoir qu'il y aurait tous ces abats dans les cuisines. Et on aurait même pu dire demain que la porte étant restée ouverte, un chien était entré et les avait mangés. Enfin, il devait avoir un certain sens de l'économie et un certain intérêt à ce que les cuisines ne fussent pas dégarnies de denrées plus précieuses. Sinon, il lui aurait donné une entrecôte ou un autre morceau de choix. Et alors, tu vois que l'image de notre inconnu se dessine avec grande clarté et que toutes ses propriétés ou accidents conviennent bien à une substance que je ne craindrais point de définir comme notre célérier, Remigio de Varagine. Ou, si je ne me trompais, comme notre mystérieux Salvatore, qui, entre autres, étant de cette région, sait fort bien parler avec les gens du coin et sait comment convaincre une jeune fille de faire ce qu'il voulait lui faire faire, si tu n'étais pas arrivé. « C'est sûrement ça, » dis-je convaincu. « Mais à quoi cela nous sert-il à présent de le savoir ?»« À rien. Et à tout, » dit Guillaume. « L'histoire peut avoir ou ne pas avoir un rapport avec les crimes dont nous nous occupons. D'autre part, si le célérier a été dolcinien, ceci explique cela et vice-versa. Nous savons enfin maintenant que cette abbaye, la nuit, est un lieu d'errance plein de tribulations. Et qui sait si notre célérier ou Salvatore, qui la parcourt dans le noir, avec une telle désinvolture, ne savent pas en tout cas beaucoup plus qu'ils ne disent. Mais ils parleront devant nous ? Non. Si nous avons une attitude compatissante, si nous ignorons leurs péchés. Mais si nous devions vraiment savoir quelque chose, nous tiendrions une façon de les persuader de parler. Autrement dit, s'il le faut, le célérier ou Salvatore sont à notre merci. Eh, Dieu nous pardonnera cet abus de pouvoir, vu qu'il pardonne tant d'autres choses, dit-il, et il me regarda avec malice. Mais je n'eus pas le cœur de faire des observations sur le caractère licite de ses propos. Et maintenant, nous devrions aller au lit, car dans une heure sonne matine. Mais je te vois encore agité, mon pauvre Atso, encore tout timoré devant ton péché. Rien ne vaut une bonne halte dans l'église pour se détendre l'âme. Moi, je t'ai absous. Mais on ne sait jamais, va demander confirmation au Seigneur. Et il me donna une tape plutôt énergique sur la tête, peut-être comme preuve de paternelle et virile affection, peut-être comme indulgente pénitence. Ou peut-être, comme coupablement je le pensais à ce moment-là, par une sorte d'envie débonnaire en homme assoiffé d'expérience neuve et ardente qu'il était.